Vous écoutez
RMC.
Nous sommes donc le dimanche 5 mai. Excellent réveil.
Vous êtes sur RMC, il est 6h30.
RMC, la matinale week-end.
Et c'est l'heure des infos avec vous, Anaïs Castagna, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. À la une, les poubelles qui s'amassent dans les rues de Marseille à quelques jours seulement de l'arrivée de la flamme olympique. Un an après la mort de Naël, tué à bout portant par un policier après un refus d'obtempérer, une reconstitution a lieu ce matin à Nanterre. Et puis, je vous parlerai aussi de la plus grande baguette du monde qui est peut-être en train d'être préparée.
D'abord, cette flamme olympique au milieu des poubelles.
Elle doit arriver mercredi à Marseille, mais dans la cité phocéenne, de nombreux arrondissements font face à une grève des éboueurs qui réclament une revalorisation conséquente du taux de pénibilité. Demande dont ne veut pas entendre parler la métropole. La situation est donc au point mort, Clara Gabillet.
Des poubelles qui débordent, des sacs qui envahissent les trottoirs du centre-ville. Une mauvaise odeur, ces Marseillais sont écœurés.
On est malheureusement habitués, mais c'est pas agréable, bien sûr.
Ça commence à devenir déplorable et en plus, étant donné que les températures commencent à grimper, ça va donner un mauvais cocktail, quoi.
Une partie des agents de la collecte des déchets est en grève à l'appel de la CGT. Situation inacceptable juste avant l'arrivée de la flamme olympique dans le Vieux-Port, selon Jean-Yves Sayag, conseiller à la métropole délégué à la propreté.
À quelques jours d'un événement interplanétaire où des milliards de personnes vont avoir les yeux braqués sur notre cité phocéenne. Il est inadmissible qu'on en arrive aujourd'hui à ce stade.
Des grévistes qui dénoncent la refonte du ramassage et demandent une harmonisation des salaires, inentendable pour Jean-Yves Sayag.
En clair, tout cumulé, il travaillerait une heure de moins pour 300 à 400 euros de plus par mois. Pensez bien que c'est impossible pour la métropole et je trouve à titre personnel que c'est inadmissible.
La métropole en appelle aujourd'hui à la responsabilité et a demandé à la préfecture de réquisitionner certains grévistes.
Ce matin dans la Provence et dans la Tribune dimanche, Emmanuel Macron revient sur le choix de Marseille comme première ville pour accueillir la flamme olympique. Justement, une très bonne idée, dit le président. Sur le manque d'intérêt des Français à moins de 90 jours des Jeux, le président affirme ne pas être inquiet. Notre pays a envie de vivre ces Jeux. Il en est fier. Et les choses vont se concrétiser. L'arrivée de la flamme va allumer les cœurs. Voilà ce que dit le président. Il en est persuadé.
Emmanuel Macron qui va s'impliquer dans la campagne des européennes. Il le dit ce matin dans la presse.
Oui, et elle cible le Rassemblement national qui continue de monter dans les sondages. Un parti qui est haut parce qu'il ne gouverne pas et qu'il ne dit rien. Voilà ce qu'il dit, le chef de l'État. Il condamne aussi avec la plus grande fermeté les blocages à Sciences Po et dans les universités de manifestants pro-palestinien, des actions qui, dit-il, empêchent le débat.
Le président qui s'apprête à en recevoir un autre, le président chinois.
Xi Jinping atterrit en France cet après-midi pour une visite d'État jusqu'à mardi. Premier déplacement en Europe depuis le Covid en 2020 et ce sera une visite très politique, Cyprien Pedril.
Oui, c'est en tout cas ce qu'a sur l'Elysée. Principal sujet, la guerre en Ukraine. La Chine est en effet un allié majeur de la Russie. Emmanuel Macron veut convaincre Xi Jinping de faire pression sur Vladimir Poutine pour qu'il cesse la guerre. Notre objectif, explique un conseiller, est d'encourager la Chine à utiliser les leviers dont elle dispose sur Moscou. Cette urgence, elle sera à l'ordre du jour de plusieurs réunions pendant la visite qui commencera à Paris en grande pompe entre cérémonies aux Invalides et dîners d'État. Et puis mardi, ce sera dans les Pyrénées. Le chef de l'État invite son homologue sur les terres de sa grand-mère dont il était très proche. Ils se rendront au col du Tourmalet. Il s'agit de créer le cadre pour un échange franc et amical entre eux, dit l'Elysée. Enfin, Emmanuel Macron entend également aborder les questions des droits de l'homme en Chine alors que des opposants en France lui avaient demandé de ne pas recevoir Xi Jinping.
RMC, 6h33, à suivre également aujourd'hui la reconstitution de la mort de Naël, ce jeune de 17 ans tué par un tir de police le 27 juin 2023. Ça se passe donc ce matin à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Reconstitution des faits qui a pour but de vérifier les versions livrées par les deux policiers mis en cause. Reconstitution qui sera sous haute surveillance, Inès Zegloul.
Oui, garantir la sécurité de ces fonctionnaires de police plusieurs fois menacés de mort. Voilà l'objectif de cet important dispositif de sécurité. Pour que personne d'abord ne puisse les reconnaître. Les deux policiers seront équipés de cagoules munies de gilets pare-balles et casques de moto. Ils arriveront et repartiront de la zone escortés par les forces de l'ordre. Des forces de l'ordre d'ailleurs en nombre sur secteur. Effectifs à moto, en civil, compagnie d'intervention. Car dans les commissariats voisins, ce que l'on craint, ce sont de nouveaux affrontements avec les jeunes du quartier. Alors sont mises en place des restrictions de circulation, un périmètre de sécurité est installé, mais pour l'heure, les renseignements territoriaux n'évoqueraient aucun potentiel débordement.
Allez, le foot, la 32e journée de Ligue 1 qui s'est poursuivie hier avec de nombreux enseignements.
Monaco conforte sa deuxième place grâce à sa victoire 4-1 contre le dernier Clermont. Les Monégasques sont assurés de terminer dans le top 4 cette saison. Brest a fait match nul 0 partout contre Nantes. Les Bretons voient Monaco creuser l'écart pour la deuxième place et Lille pourrait même leur chipper la troisième place. Mauvaise opération donc pour le Stade Brestois alors qu'il ne reste que deux journées de championnat à disputer. Mais pour Pierre Lesmelou, milieu de terrain, il faut rester ambitieux.
Oui, forcément, les équipes tournent, hein. On a vu que Monaco avait gagné, Lille va jouer aussi, donc bon, on observe quand même, Yanis aussi, donc on observe, mais on reste ambitieux, comme toujours.
Bonne opération dans le bas du tableau pour le Havre, vainqueur de Strasbourg, 3-1. Les Havrais prennent 3 points d'avance sur le barragiste Metz, battu par Rennes, 3-2. Je rappelle qu'il n'y a pas de match ce 5 mai, en hommage aux victimes du drame de Furiani. La 32e journée reprendra demain avec Lille-Lyon à 21h. Et puis deux informations capitales pour terminer. D'abord, Mathieu, désolé, je sais que c'était votre émission préférée.
Ah bon ?
Ouais. On sonne.
P.
Voyelle.
Des chiffres et des lettres. Ouais, supprimé de la grille de France Télé à la rentrée.
Ah bon ?
C'est Stéphane Sidbon Gomez, le numéro 2 de France Télé, qui fait cette annonce dans la tribune dimanche ce matin. En fait, sa reprogrammation le week-end n'a pas été couronnée de succès. C'est pour ça que ce programme culte, lancé en 65, ne sera donc plus diffusé.
Et puis, entre ça et Pyramide, parce que mon émission préférée, c'était quand même à choisir. Pyramide, j'avais un petit coup de cœur.
Ouais, moi aussi, j'aimais beaucoup.
Ah, on est d'accord.
Les mots.
Oh là là.
Bref.
Vous avez quel âge ?
Et
puis, direction Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, où 6 boulangers mettent la main à la pâte pour tenter de fabriquer la plus longue baguette du monde. Le record pourrait être battu ce matin. Il faudrait faire plus de 132 mètres. Franck Thomas, le président des boulangers des Hauts-de-Seine.
Ce record, il est symbolique parce que déjà, c'est une année olympique. Donc, on cherche les médailles. Et le dernier record était détenu par les Italiens en 2019. Là, on a gagné la Coupe du Monde au mois de janvier. Ensuite, au mois de mars, on a gagné la Coupe d'Europe. Notre baguette a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2022. Il y en a beaucoup qui aimeraient nous la piquer, notre baguette. Hein, parce que nous, c'est vraiment l'emblème de la France, hein, notre baguette. Donc, pour nous, c'est normal que ce record revienne à la France.
Bah c'est fou de se dire que c'est l'Italie hein, qui détient ce record depuis 2019.
Ils savent faire des baguettes en Italie.
Oh, arrêtez. Oh. On sait faire des pâtes ici.
Non, c'est vrai que c'est pas leur truc normalement. Mais il est grand temps en tout cas de ramener la coupe à la maison. Oui. Merci Kevin. Et on est tous avec vous. Cette gigantesque baguette.
Non, une bonne baguette. Dedans. Bien fraîche, croustillante,
ouais,
chaude.
Plus de 132 mètres. Elle est à fond, Anaïs.
Mais ça va dépasser la Tour Eiffel presque, là. Ou au moins le premier ou le deuxième étage, non? Imaginez si vous mettez cette baguette tout en haut, 132 mètres.
C'est une folie, ouais.
C'est quand même pas mal.
Elle peut faire des belles tartines.
Effectivement, pour le dimanche matin, ça met en forme. Merci Anaïs Castagna. 6h38, c'est l'heure des courses.
Les courses RMC.
Le dernier bruit de cheval sur lequel il faut miser.
Bonjour Frédéric Kita.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Départ 15h15. Comme d'habitude, on est à Longchamp aujourd'hui.
Effectivement, on retrouve les galopeurs sur l'hippodrome de Longchamp pour un quintet plus très ouvert avec 16 concurrents âgés de 4 ans qui s'affronteront sur 2100 mètres. C'est un handicap, hein, qui dit donc course très ouverte, comme je l'ai dit précédemment, avec le principe, les concurrents portent un poids plus et moins élevé en fonction de leur valeur. C'est-à-dire que le concurrent qui a le poids le plus élevé, c'est celui qui a la plus grande valeur. Et inversement, pour le concurrent qui a le moins de poids, celui qui a la plus basse valeur dans son handicap. Course donc très, très ouverte et très difficile à étudier.
Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Vous nous conseillez quel numéro ?
Le numéro 2, Ali Stocking, il vient d'effectuer une plaisante rentrée en terminant 3e. On pense qu'il est capable de confirmer ici en luttant pour les premières places.
Et en deuxième choix ?
Le numéro 8, Goldie Way de Son, c'est un concurrent qui ne doit pas être condamné sur sa course de rentrée. Il a réalisé de bonnes performances dans les handicaps l'an passé. Il sera monté par Stéphane Pasquier, le jockey qui a gagné le plus grand nombre de quintets durant sa carrière et même de l'histoire pour les courses épiques. Il peut donc ici refaire parler de lui dans ce quintet plus, ce concurrent, le numéro 8, Goldie Way de Son.
Merci Frédéric, tous les pronostics sont à retrouver sur rmc.fr.
On se réveille ensemble, 6h39, bientôt 7h20. Qui est déjà de réveiller avec nous debout ?
Et déjà, comment ?
J'espère un peu mieux que moi. Myriam est là, bonjour Myriam.
Bonjour l'équipe, bonjour tout le monde, vous allez bien ?
Ça va et vous ?
C'est un peu dur, hein, comme vous pouvez l'entendre pour moi, je pense que
voilà.
Mal réveillé, c'est tout, mais ça va aller maintenant que vous êtes là, Myriam.
Voilà, tout à fait.
Déjà au boulot ou pas ?
Je suis en train de mettre en place, oui.
Ah, l'épicerie à Saïnce, voilà, dans la Drôme. Vous n'êtes pas parti en goguette ?
Pas encore.
Bon. Myriam, est-ce que vous avez hâte qu'on soit aux Jeux Olympiques?
Oula. Non, mais moi, les JO, pour moi, c'est important parce que ça fait du sport. De tous les sports, on a plein de petites nations qu'on découvre. On découvre du sport. Mais bon, après, moi, je trouve dommage qu'on parle que de Paris, 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 Paris.
En même temps, ça se passe à Paris, hein, Myriam. Bah,
là, pas partout, hein. Non, ça pas, se passe non, à Bordeaux, avez, à Nantes.
Oui, vous avez raison. Voilà. Mais de toute façon, toutes ces villes seront mises en lumière au moment des épreuves.
Oui, mais c'est dommage qu'on n'en parle pas déjà.
D'accord, Myriam.
On sait très bien que Paris est le centre du monde.
Oui, Myriam. Non, là, quand même. Ajoutez de la polémique sur la polémique. Vous
non,
avez
mais après, moi, j'ai hâte d'être au JO. Oui, c'est important.
Vous allez suivre?
Oui, certains sports, le 3-3 au basket, l'escalade, l'athlète, en espérant que notre petit meilleur va faire les jeux.
Kevin Mayer, bah oui, il y a encore un doute.
Il est d'ici quand même, le petit pépère.
Eh bah oui, je sais, le Dromois.
Et Myriam,
vous suivez ces épreuves-là parce que vous avez vous-même pratiqué ces sports?
J'ai fait du basket.
D'accord.
Bon, je ne fais pas 2 mètres, hein, je fais 1m60.
Mais tout est possible, Myriam.
Mais non, oui, moi, j'ai découvert le 3-3 au JO, là. Et franchement, j'ai trouvé ça génial.
Eh bien, écoutez, je suis sûr que chacun d'entre nous va pouvoir se régaler et se laisser surprendre par ces Jeux
Olympiques.
Après,
il faut... Oui, moi, les JO, voilà, c'est important, les JO.
Bon, eh bien, venez nous dire, vous aussi, pourquoi c'est important, les JO. Essayons de se mettre dans l'ambiance.
La fête du sport.
Voilà, déjà, rien que ça. Myriam, bon courage à vous. Hein.
Oui, bonne journée.
À bientôt, Myriam. Bon dimanche à vous. Et n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, 6h41.
À suivre dans la matinale week-end.
De plus en plus de Français s'équipent en panneaux solaires. Est-ce vraiment un bon plan? C'est votre coup de main IMO avec Marie-Claire Deroy à 6h50.
D'abord, on va ouvrir la presse. Toute l'équipe est là et vous rejoint dans un instant. Ce sont les histoires du week-end.
RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Allez, bienvenue, il est 7h moins le quart.
RMC.
Les histoires du week-end.
Tout le monde est là autour de la table du petit déjeuner. Bon, il est peut-être un peu tôt pour un dimanche matin, mais on est là. Kevin Gasser nous rejoint. Bonjour Kevin.
Bonjour tout le monde.
Anaïs Castagna, Peggy Broche sont toujours là.
Toujours.
Ça va mesdames? Tiens, on n'est pas tout seul hein, ce matin. Joël nous passe un petit message, un petit coucou depuis l'Aveyron où il se réveille avec nous tous les week-ends. Il nous souhaite un bon dimanche sur
l'appli
RMC. Stéphane est dans le Cantal où il fait chaud, nous dit Stéphane, mais pourquoi pas. On a aussi Véronique qui s'inquiète de la baisse de niveau à la télévision française.
Oula.
On supprime le pyramide, on supprime des chiffres et des lettres, et on a les Marseillais et Secret Story. Voilà. Et puis Monique, à Chamalières, qui nous a écouté hier, qui vous a écouté hier, Anaïs Castagna, raconter votre histoire d'araignée dans l'oreille. Là.
Ouais.
Bah, la pauvre Monique, elle n'a pas dormi de la nuit.
Non,
elle s'est réveillée une dizaine de fois en croyant avoir avalé une araignée.
L'angoisse. Je suis désolée, Monique.
Écoutez, on va voir ce que nous réserve Anaïs Castagna pour son histoire ce matin.
C'est plus doux ce matin.
C'est vrai?
Ouais.
Bon.
Vous verrez.
Kevin Gasser, on est à 5 mois des élections européennes. Les débats en France peut-être nous ennuient. En Allemagne, en revanche, il y a un parti qui essaye de rendre la politique très attractive.
Et pas n'importe quel parti. Il s'appelle le parti Die Partei en allemand. Alors, ils présentent une liste pour ces élections. Ils ont dévoilé leur programme mercredi. Alors, quelques mesures pêle-mêle. Ils veulent que tous les élèves aient 20 sur 20 au baccalauréat. Voilà, il suffisait d'y penser. D'accord. Il faut limiter les vols intérieurs en matière d'écologie. Sauf pour les oiseaux, Taylor Swift, parce qu'elle fait beaucoup de concerts, elle fait tout le temps des tournées, et aussi pour la présidente de la Commission européenne pour ses trajets Bruxelles-Strasbourg, bien sûr. Il faut aussi un prix plafond pour les produits alimentaires de première nécessité, 3 euros maximum pour une pinte de bière ou un kebab. Et enfin, le retour à une division entre Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est à l'ancienne. Vous avez compris, c'est un parti satirique, mais ce ne sont pas des guignols, c'est Martin Sonneborn qui a créé le parti il y a 20 ans. C'est un journaliste et un écrivain satirique qui travaillait pour l'équivalent du Charlie Hebdo allemand. Et il est déjà député européen depuis 2014. Ils sont deux du parti à siéger au Parlement actuellement. Die Partei a en fait des idées très progressistes et il essaye dès qu'il peut de décrédibiliser l'AFD, vous savez c'est le parti allemand d'extrême droite, ou encore de dénoncer le pouvoir des lobbies ou l'inefficacité des processus au sein des institutions européennes, donc un parti mais pas que satirique.
Bah, au moins ça a mérite de faire parler lui jusqu'ici, jusqu'en France. 3 euros la pinte
C'est pas mal, hein.
Peut-être qu'il y aura des candidats. voilà. Ou 3 euros le kebab, pourquoi pas. Peggy Broche, vous nous emmenez en Grande-Bretagne, je crois.
Oui.
Où elle a retrouvé sa bague de fiançailles 54 ans plus tard.
C'est incroyable. Elle s'appelle Marilyn Birch, une Britannique de 76 ans. Alors écoutez bien, en 1966, son mari, Pete, qui a aujourd'hui 80 ans, lui offre cette bague de fiançailles, mais quelques années plus tard, en allant donner le foin au bétail, Marilyn perd la bague. Donc là, c'est le drame.
En allant donner le foin au bétail, tu m'étonnes qu'elle perde la bague de fiançailles.
Ben, la bague, elle a glissé, c'est en se lavant les mains après qu'elle se rend compte qu'elle a plus la bague.
Sur le ballon de foin, ouais. Ça a bien battu Marilyn.
Mais non, mais alors qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle l'a cherchée pendant des heures, elle ne l'a pas retrouvée, elle était bouleversée parce que c'était, il y a une vraie valeur sentimentale avec cette bague. Forcément, bague de fiançailles, ça veut dire mariage après. Bon, bref, pendant longtemps, elle a continué à regarder, à chercher, mais rien du tout. Et puis un jour, il y a quelques semaines, elle rencontre Keith Phillips, un détective dont la spécificité c'est de rechercher des trésors dans les propriétés avec un détecteur de métaux. Exactement. Et Pete lui a proposé son aide. Elle a dit, bah, pourquoi pas. Et Pete a retrouvé la bague.
Oh.
En une semaine, il est venu 3 fois. La 3e fois, il a retrouvé la bague. Elle était enterrée à 20 cm sous terre dans un champ de leur propriété.
Ah oui, quand même, ouais.
Je vous laisse imaginer l'émotion de Marilyn, qui a confié d'ailleurs qu'habituellement, elle parlait beaucoup. Mais là, elle est restée sans voix. Et 54 ans après, la bague lui va comme un gant.
Oh. Eh bien, dites-moi.
C'est magnifique. Ouais, belle histoire d'amour.
Et puis, on termine avec vous, Anaïs Castagna. Ça vaut pour tout le monde, pour Marilyn et tous les autres. Câlinez-vous, c'est ce que vous nous dites.
Oui, parce qu'une étude néerlandaise confirme les bienfaits des câlins. Alors, je sais ce que vous allez dire. Est-ce qu'on avait besoin d'une étude scientifique pour nous dire que les câlins, ça fait du bien physiquement et mentalement? On s'en est tous rendu compte, évidemment. Mais là, c'est prouvé scientifiquement. Des scientifiques de Netherlands Institute of Neurosciences et l'université d'Essen se sont basés sur une centaine d'études effectuées sur le toucher pour parvenir à leur conclusion. Ils affirment que oui, le toucher, les câlins, ça permet de réduire les douleurs, l'anxiété, la dépression, le stress. Mais surtout, ce qu'on apprend, c'est que le facteur clé, c'est la fréquence des câlins en question. Selon les auteurs, une simple étreinte est plus efficace qu'un long massage si elle est faite plus régulièrement. Donc la moralité, c'est câlinez-vous très souvent.
On se fait des câlins.
Un petit câlin. Un petit câlin de temps en temps.
Plein de petits câlins. Alors, vous pouvez vous faire plein de gros câlins.
Oui.
Voilà. Mais il faut que ça soit fréquent. Voilà.
Régulier. Au quotidien.
Mais on parle de câlins, Mathieu.
Plusieurs fois par
jour. Tous les câlins que vous voulez. Voilà, des câlins.
Mais on est d'accord, c'est des câlins qu'on se fait aux autres. C'est pas des câlins à soi-même.
Non, c'est pas de l'autocâlin, ouais.
Mais parce qu'il y a ça aussi maintenant, vous savez.
Ah ouais.
Mode de câlins.
Alors, attendez, l'étude s'est penchée sur l'efficacité des robots. Visiblement, ça marche presque aussi bien que le contact humain pour améliorer le bien-être physique. En revanche, pour ce qui est du bien-être mental, en cas d'anxiété, de solitude, le contact humain serait plus approprié.
Eh bien voilà, comme ça vous savez tout pour bien commencer votre dimanche. Merci beaucoup à vous trois. Dans un instant, c'est l'immobilier avec Marie-Cœur de Roy.
Il n'y a rien de plus fou.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Ah, 6h51, vous êtes bien sur RMC. On va parler de cet énorme clash entre deux rappeurs, Kendrick Lamar et Drake, qui s'affrontent par chanson interposée. C'est dans votre bonus RMC ce matin et c'est dans 2 minutes.
Mais d'abord,
RMC.
Le coup de main IMO.
Avec Marie Cœur de Roy, toutes les questions IMO que vous vous posez.
Bonjour Marie.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Le soleil se cache, ça c'est vrai.
Mais il va revenir.
Ouais, dans les prochains jours, on espère. Parlons en tout cas des Français et de leur attrait pour les panneaux photovoltaïques qui se renforcent d'ailleurs. Les Français sont en train de prendre le virage de l'énergie solaire, ça y est.
Alors désormais, près de 500 000 foyers français sont équipés de panneaux solaires selon Enedis. Bon, alors c'est peu sur un total de 30 millions de ménages, mais c'est quand même 5 fois plus qu'il y a 3 ans. Logique quand on regarde d'un côté la flambée des prix de l'électricité qui ont pris près de 40% sur un an, et puis en parallèle les prix des panneaux solaires qui eux ont en moyenne reculé d'environ 25% depuis un an et demi. Le matériel est donc beaucoup plus vite rentabilisé. Et puis il y a les avancées technologiques qui permettent de démocratiser l'usage des panneaux solaires.
Ah bon ?
Le concept à la mode, c'est le plug and play. Des panneaux à monter et installer soi-même, posés au sol ou accrochés à la façade des maisons. En fait, il suffit de les brancher à une prise électrique classique pour alimenter son logement en énergie solaire.
Des panneaux solaires qu'on branche à la prise d'électricité, enfin c'est quoi
le principe, c'est sérieux ?
Bah oui, mais en fait, Mathieu, beaucoup d'entre nous l'ignoraient, moi pareil, hein, mais la prise, elle sert pas uniquement à donner de l'électricité, elle peut aussi vous permettre de l'alimenter. C'est un peu comme une autoroute, ça va dans les deux sens. Et là, en l'occurrence, on va aller transférer l'électricité produite par nos panneaux via la prise jusqu'au tableau électrique du logement. Et puis de là, bah, cette énergie, elle sera redistribuée dans tous les circuits. C'est une simplicité qui permet même d'envisager une pause en appartement. Bon, à condition d'avoir un rez-de-jardin ou une terrasse bien exposée et suffisamment grande, faut compter au moins 2-3 mètres carrés de surface disponible. L'autre gros avantage, évidemment, hein, c'est le prix. On oscille autour de 700 euros pour la puissance standard des kits qui sont actuellement vendus. C'est le cas de celui de l'entreprise nantaise BIM Energy que j'ai pu tester. Entreprise nantaise, mais panneaux chinois, hein, je le précise.
Ah oui.
Bah oui, mais le problème, c'est que les 10 plus gros fabricants de panneaux, ils sont chinois. Donc bon, la seule qui propose des panneaux fabriqués en France, c'est Sonetic. Elle est quand même environ 10% plus chère. Mais bon, même à un peu plus de 700 euros, on est très très loin des 7000 de départ minimum, hein, pour une installation en toiture.
Mais si c'est moins cher, ces panneaux, c'est que c'est moins intéressant en termes d'économie d'énergie,
ben,
j'imagine.
On va pas se mentir, Mathieu. Hein, ce système, les économies, elles restent quand même relativement limitées. On peut quand même monter jusqu'à 15-20% d'économie sur nos factures, contre eux quand même, il faut le rappeler, 80% avec une installation toiture. Mais bon, les gars, ils sont non négligeables. Chez BIM Energy, qui compte déjà plusieurs dizaines de milliers de clients, on estime que ça va d'environ 200 euros en moyenne par an à Paris, à 275 euros à Marseille. Bon, bah forcément, il y a un peu plus de soleil. Et puis, vu les prix de départ, on rentabilise assez vite l'investissement initial, au bout de 4 à 6 ans, contre environ 8-9 ans pour les panneaux de toiture. En fait, la vraie limite du système plug and play, c'est que là, c'est uniquement pour une consommation immédiate. Donc, faut pas oublier de programmer sa machine quand le soleil est au zénith. Ouais, on peut pas non plus stocker l'énergie produite pour plus tard via une batterie. Impossible aussi, contrairement aux panneaux toiture, de revendre du surplus à EDF. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de surplus. En réalité, le plug and play, c'est souvent un premier pas dans le photovoltaïque pour passer ensuite à des installations plus massives et donc forcément plus coûteuses.
Et bien sûr, tout ça a une logique. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Cœur de Roy, pour tous vos conseils, vos découvertes à retrouver sur rmc.fr. Ah bah tiens, justement, Didier nous écrit, Peggy, sur l'appli RMC.
Et il confirme, les panneaux photovoltaïques sont un très bon plan. Facture d'électricité, moins 70%, je ne sais pas si vous imaginez. Amortissement entre 7 et 8 ans et plus l'électricité augmente, plus c'est rentable.
Eh ben, dites-moi, faites comme Didier, témoignez ce matin, vous pouvez réagir, vous le savez, sur RMC, à tous nos sujets d'actualité. 7h05.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Bon, Peggy, il va falloir m'expliquer ce clash entre Kendrick Lamar et Drake.
Alors, suivez bien parce que c'est compliqué. Déjà, pour rappel, Drake, c'est lui. Bon, ça vous parle.
Ouais.
Kendrick Lamar, c'est lui. We gon' be alright. Et c'est un feuilleton sans fin. Le rap américain est en ébullition, Mathieu. Alors, c'est assez courant, hein, dans ce milieu, mais alors depuis quelques semaines, le clash entre Drake et Kendrick Lamar a pris une véritable ampleur. Tout a commencé, notez bien, le 22 mars. Kendrick Lamar a fait une apparition surprise en featuring avec deux autres rappeurs, Future et le producteur Metro Boomin. L'artiste californien a envoyé une pique à J. Cole, un autre rappeur, et Drake, en clamant qu'il était numéro 1. Bon, ensuite, J. Cole a répondu le 5 avril, tout a commencé le 22 mars, hein, je rappelle, en chanson. Mais deux jours plus tard, il s'est excusé et il a dit qu'il avait eu tort. Il a supprimé donc le titre des plateformes de streaming. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. J. Cole a retourné sa veste et il a rejoint le camp de Kendrick Lamar.
Oula.
Oula, comme vous dites. Il n'en fallait pas plus pour attiser les foudres du Canadien Drake, qui le 13 avril a très vite répondu et il a sorti sa Distrack. Donc Distrack, en gros, c'est le clash, la chanson. Par chanson, on se pique, on se lance des piques, on s'insulte même, ça va jusque-là. La Distrack, donc, est avec ce titre qui a fait parler. Derrière, qu'a fait Kendrick Lamar ?
Et il a répondu en chanson.
Évidemment, avec un titre, non pas de 3 minutes, mais 6 minutes. Hein.
Oula.
6 minutes pendant lesquelles ça se lance des pics et ça s'insulte. Euphoria. Alors, dans ce titre, il dit: on sait que t'es un manipulateur, un menteur, mais tu ne dis que des mensonges et moi je ne dirai pas la vérité sur toi. Enfin bref, tu n'es pas
traduire,
Non, t'es un escroc. Je m'arrête là. En deux jours, pas moins de 11 millions d'écoutes. Et il fait mieux que les derniers morceaux de l'album de Taylor Swift, donc c'est vous dire. Mais ça s'arrête pas là. Les clashs entre les deux rappeurs aujourd'hui vont très loin. Ça n'a pas commencé il y a quelques jours, ça a commencé déjà en 2013. Et c'est un peu, on va dire, en caricaturant, comme si dans les années 70, Johnny Hallyday et Claude François s'insultaient.
Ah, d'accord.
Vous voyez, c'est un peu ça, en fait, l'idée.
Depuis le 22 mars, il y a eu 8 titres. 8 titres entre les deux où ils se répondent et où ils se clashent. Et un dernier est sorti cette nuit. Jusqu'où iront-ils? On ne le sait pas, mais en tout cas, ça fait parler.
On va suivre cette saga.
Ah, c'est
moi,
une vraie
j'ai
saga.
Hein. Presque l'impression d'être dans un épisode des Anges de la télé-réalité.
C'est un peu ça.
Franchement, ouais. On est à ce niveau-là. Merci Peggy, les infos de 7h dans 2 minutes.
RMC. La matinale week-end.